Ouais, merci beaucoup, Louise. Merci de nous avoir fait entrevoir vraiment qu'est-ce que c'est d'être ses enfants, d'être appelés ses enfants. Et c'est vrai que le Seigneur veut nous, notre Père, c'est vrai, a voulu vraiment s'approcher de nous, a voulu nous révéler cet amour vraiment parfait. Et il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous parlent. C'est cette passion vraiment qu'il a mis pour nous élever, pour nous chercher toujours plus à faire que nous soyons proches de lui. Et je voudrais revenir ce matin, je voudrais parler de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et ce matin, on a lu ce psaume 33, dans lequel il y dit... Dieu, il parle de Dieu, il dit et la chose arrive, et il ordonne et elle existe. C'est cette puissance de la parole de Dieu, on sait, on va voir que cette parole c'est la vérité, et elle ne laisse pas les choses indifférentes, c'est-à-dire que la parole, elle agit. Et ça c'est vraiment une chose qui fait partie de ce plan, de cette puissance que Dieu a voulu vraiment mettre en œuvre dans notre monde et maintenant aussi dans nos vies propres à chacun. Et la vérité, et je voudrais parler aussi bien sûr de son contraire qui est le mensonge, quelle influence ça peut avoir dans nos vies finalement. Et ça, avec le bonheur, la vérité, ce sont les sujets les plus dissertés en philo. Et les philosophes, les scientifiques et chaque homme en particulier de tout temps recherchent la vérité. Et cependant, cette recherche, elle reste souvent à l'état de recherche. Car pour beaucoup, elle n'est qu'un mythe. Elle serait donc impossible à trouver. Et c'était le cas de Ponce Pilate. Lorsqu'il a interrogé Jésus, vous avez le passage là qui est affiché, Pilate lui dit, donc tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc là, pour Pilate, sa recherche, elle est restée à l'état d'une question. Comme beaucoup d'autres hommes, Pilate n'attend pas la réponse. Alors qu'il est devant celui que Dieu avait envoyé pour rendre témoignage à la vérité. Quel dommage. Alors il est peut-être plus facile de renoncer à rechercher la vérité, car c'est vrai qu'il faut du courage pour affronter, car souvent elle dérange. On connaît bien ce dicton, il n'y a que la vérité qui fâche. Et on préfère parfois ne pas connaître la vérité et rester dans le déni, ou le mensonge, quand on s'imagine ainsi se simplifier la vie. Donc à notre époque de relativisme moral, d'éthique, ou à géométrie variable, certains se posent la question de savoir s'il existe vraiment des absolus dans le monde. La vérité, finalement, est-ce qu'elle est relative? N'y a-t-il rien de fondamentalement bon ou mauvais? En fait, la vérité absolue, elle est bien réelle. Elle est là. Mais où pouvons-nous la trouver? Et dès le début, Adam et Ève détenaient cette vérité absolue, puisque dans la présence de Dieu, ils n'avaient pas besoin de se cacher de Dieu et puis de se cacher l'un de l'autre. Leur relation était empreinte de vérité, sans faux semblant. Et le Créateur et la créature étaient en parfaite harmonie. Ils avaient le même point de vue, la même façon de voir les choses. La vérité relative n'existait pas. Mais ils ont voulu connaître le bien et le mal. Et le serpent a sifflé à leurs oreilles. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qui les a motivés à manger du fruit défendu. Et brutalement, à ce moment-là, la vérité absolue a laissé place à la vérité relative. Leur perception de leur propre situation ne se faisait plus directement au travers de la perception de Dieu, mais au travers de leur propre filtre. Et c'est pour ça qu'ils se sont vus subitement nus. Et c'est à partir de là que les hommes ont commencé à imaginer leur propre vérité au gré des situations dans lesquelles ils se trouvent. Leur vérité se trouvait donc relative à leur situation et non plus absolue selon la perception de Dieu. Et du moment où la vérité est relative, la perception des choses est différente selon la situation dans laquelle nous sommes. Ainsi, lorsque la nuit arrive chez nous, il fait grand jour sur la côte des USA. Tu peux afficher le... Ça, c'est un fait réel qui rythme nos vies. Néanmoins, il y a aussi la vérité de Dieu, lui qui, de sa grandeur, de sa hauteur, est toujours dans la lumière et dispose d'un point de vue élevé qui lui permet de voir tout cet univers en mouvement. On a chanté sur les hauteurs, mais réfléchissez à ça. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Et voyez donc peut-être où je veux en venir, mais dans nos vies spirituelles, cette loi est valable aussi. Si nous nous plaçons de notre point de vue, dans le train-train de nos vies, eh bien nous aurons aussi l'impression que nos vies sont temporaires, sans impact. En revanche, si nous plaçons du point de vue de Dieu, eh bien nous sommes témoins de cette même énergie qui régit l'univers et que Dieu finalement veut souffler dans nos vies pour faire de nous des personnes extraordinaires et des personnes qui impactent notre monde. Regardez Pilate, grand homme de son époque. C'était le roi en Israël. Et quel impact a-t-il eu pour l'humanité? Il est tombé, comme beaucoup, de la hauteur de sa propre vérité, et après. Regardez Jésus qui est tombé aussi, mais d'une autre hauteur, avec une autre puissance. Il s'est relevé, il est ressuscité, et son œuvre a impacté l'humanité tout entière. La relativité de la vérité, ce n'est pas une théorie comme celle d'Einstein. La perception différente que nous avons les uns des autres, dans des situations pourtant des fois identiques, montre bien que pour les hommes, la vérité est toute relative. Mais l'humanité ne peut pas se contenter de cela. Elle a besoin de savoir ce qui est vrai. En preuve, cette question vraiment de Ponce Pilate qui résonne en tout tombe, mais qu'est-ce que la vérité ? Mais l'humanité ne peut pas se découvrir par elle-même. Cette vérité absolue ne peut pas se découvrir par elle-même, sans changer de point de référence. Car depuis la chute, la vérité a laissé la place au doute, puis au mensonge. Et cette soi-disant connaissance du bien et du mal a remplacé la connaissance de la vérité. Alors le Dieu créateur laisserait-il sa création dépourvue d'indications et de principes de base pour comprendre cette vérité avec un grand V? Nous aurait-il créé pour nous abandonner dans des ténèbres sans réponse, incapables de déterminer le vrai du faux, de différencier le bien du mal? Nous aurait-il créé pour nous laisser nus, sans le moindre espoir de comprendre la raison pour laquelle nous avons été créés? Alors si Dieu aimant il y a, il nous aurait assurément laisser des écrits et des indications, des instructions pour connaître la vérité. Et dans la révélation du Dieu tout-puissant et éternel, donc dans la Bible, dans sa parole, nous avons accès finalement à la vérité. Amen. Dieu est la vérité. La Bible parle, tu peux afficher, juste cette image qui permet de comprendre quel point de vue et qu'est-ce que c'est cette vérité. Afficher le psaume 31, verset 6, tout court, qui dit Dieu, le Dieu qui appelle le Dieu de vérité. Et dans le psaume 119, au verset 160, nous lisons aussi que le fondement de la parole, c'est la vérité. La parole est ce que nous en connaissons par la Bible, a profondément fondement la vérité. La parole, avec un grand P, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et comme nous le lisons dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, n'est fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Et on a la réponse là dans le psaume 33 qu'on a lu. Donc Dieu ne peut donc pas mentir dans tout ce qu'il dit ou ce qu'il promet. Le rôle de la parole de Dieu est la source de la vérité ultime. Une vérité qui peut venir du Créateur tout-puissant en personne. Elle ne peut pas simplement être acceptée sur la base d'arguments philosophiques ou de recherches scientifiques. D'ailleurs, si c'était le cas, Dieu serait beaucoup plus respecté qu'il ne l'est et on lui aurait déjà attribué plus d'un prix Nobel. Je dis ça parce que c'est la saison. C'est Dieu lui-même qui valide sa parole dans la vie de ceux qui lui permettent de travailler en eux pour comprendre ses vérités. Et dans l'humilité, rappelez-vous ces paroles, « Heureux les simples d'esprit ». Et malgré cette possibilité offerte par Dieu, beaucoup d'hommes, comme Pilate, rechignent à connaître la vérité. Pourtant Dieu, dans son amour, il ne lâche pas le morceau. Et il veut que les hommes, tous les hommes, parviennent à la vérité. 1 Timothée 2,4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le salut est le moyen par lequel la connaissance de la vérité est désormais possible. Car Jésus, comme il l'a confirmé à Pilate, est venu rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en venant parmi les hommes, il est venu nous révéler cette vérité absolue. Tu peux avancer, Clément ? La parole de vérité s'est faite chair à la personne de Jésus-Christ. Jean 1, verset 17, précise que la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Jésus a lui-même déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça, c'est peut-être difficile des fois à assimiler pour certains. Mais il n'y a pas d'autres alternatives pour accéder à cette vérité absolue. Ailleurs, il est dit « Il n'y a de vérité, il n'y a de salut en aucun d'autre. » Une première chose que Jésus a fait dans son ministère terrestre, il a fait habiter parmi l'humanité la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. C'est ce que nous lisons au verset 14 de cette première, dans l'évangile de Jean. La parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Les deux sont indissociables. Et désormais, le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus. Maintenant, dans notre esprit, il y a cette œuvre qui est là afin que nous marchions à notre tour en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nos choix soient bien conformes à la vérité absolue et non influencés par nos perceptions, notre perception relative des situations. Et là, pour ceux qui étaient là au week-end à Champfleury, on a vu un film et on peut voir vraiment quelle transformation peut s'opérer dans nos vies grâce au fait de s'approprier comme seule vérité celle qui correspond à la perception de Dieu. Et ce film, tous ceux qui l'ont vu ont été interpellés, car il nous a justement fait réfléchir sur ces fausses vérités que nous construisons et qui nous enferment dans nos blessures et nos souffrances. C'est La Cabane, pour ceux qui veulent savoir le film, qui est tiré d'un livre. Combien les circonstances de nos vies, les blessures passées ou présentes, ou encore simplement notre éducation, viennent relativiser notre notion de la vérité. Ainsi, quand ton père vous dit tout au long de votre enfance que vous êtes nul, la conséquence est bien souvent que vous avez du mal à vous sortir de la spirale de l'échec. Quand les difficultés s'accumulent ou que vous pensez que les seules alternatives sont l'alcool, la drogue ou même le suicide, et même dans le couple, quand les difficultés sont telles que la seule solution est le divorce, et vous pourrez me donner encore plein d'autres exemples, mais dans toutes ces situations, nous pensons que notre propre opinion est juste. Et on s'enferme dans cette forteresse, dans une forteresse que nous croyons être la vérité. Certes, ces circonstances difficiles, elles sont réelles, elles sont bien vécues, et elles peuvent être d'ailleurs agréables ou désagréables, mais au fil du temps, on finit par nous persuader que les mécanismes que nous sommes autoconstruits sont la vérité. même s'ils sont contraires à la vraie vérité que nous devinons par la parole de Dieu. Alors on développe des moyens de coexister avec ces mécanismes de fausses, de coexister avec des fausses vérités qui peuvent devenir finalement notre réalité, et on se laisse contrôler par elles. Donc ce n'est pas la vérité avec un grand V, la parole faite chair qui nous contrôle, mais c'est un mensonge que nous croyons être la vérité. Et le diable, qui ne sait que mentir, est particulièrement rusé pour nous maintenir dans la tromperie. Mais là encore, Jésus, qui est la vérité, l'a démasqué. Jean 8, à partir de verset 40. « Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Et un peu plus loin, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Si vous relisez le début de ce passage, quand Jésus dit ces paroles, il est dit ouvertement à des Juifs, mais qui ont cru en lui. Et il leur dit plus haut, verset 32, qu'il est possible de connaître la vérité et qu'elle les rendra libres. Et Jésus laisse transparaître à travers ses paroles qu'il est possible de croire en lui sans comprendre son langage. Parce que nous ne pouvons pas écouter la parole ou cette vérité. Et il donne la raison de cette impossibilité parce que nous voulons continuer à croire à notre propre vérité, qui en fait est un mensonge et que nous sommes construits tout seuls. En ce sens, Jésus nous ouvre les yeux pour nous dire que nous imitons l'attitude du diable. Comme un enfant souvent imite l'attitude de ses parents. Alors ces paroles nous heurtent certainement, mais quand Jésus parle du diable, père du mensonge, il dit c'est parce qu'il parle de son propre fond. C'est-à-dire que c'est à partir de son propre ressenti dans les diverses situations qu'il en déduit sa propre vérité. Et c'est pour ça que si on tombe dans ce schéma-là de pensée à l'identique du diable, on voit qu'on tombe dans la relativité de la réalité, de la vérité, mais qui n'est pas la vérité de la parole. Et cela, ça contraste avec la vérité absolue, finalement, que Jésus a reçue de Dieu. Il le dit au verset 40, plus haut, « Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Jésus n'a pas inventé sa propre vérité. Il dit celle qu'il a entendue de Dieu. Donc pour résumer, si j'ose répondre à cette question, qu'est-ce que la vérité ? Elle vient donc de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Ce que nous entendons de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et tout ce qui vient de notre propre fond n'est pas la vérité. Même les pensées humaines, les plus sages et teintées de spiritualité, ne sont pas la réalité. D'ailleurs, le diable en est le spécialiste lorsqu'on voit les arguments qu'il avance lorsqu'il tente Jésus. Mais Jésus a paru pour vaincre les œuvres du diable. Comme dans la prière modèle de notre Père, Jean-Paul nous a rappelé dimanche dernier, « Soyons délivrés du malin. » Soyons délivrés du père du mensonge pour croire celui qui dit et qui rend témoignage de la vérité, et c'est Jésus seul. Et finalement, il y a un enjeu terrible entre la vérité et le mensonge. Et cet enjeu, ce sont tous les hommes que le père du mensonge veut maintenir maintenant éloignés de la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit, vraiment nous conduisant et relayant ce qu'il a lui-même entendu, continue l'œuvre de Jésus dans le monde et plus particulièrement dans l'Église, afin que par nos vies, nous rendions témoignage à notre tour de cette vérité. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ainsi, notre Seigneur, et maintenant le Saint-Esprit, coopère pour faire résonner la vérité absolue dans nos vies. Puis dans notre monde, comme elle résonnait dans le Jardin d'Éden. Et voyez vraiment ce que la parole là souligne. À l'identique de Jésus et à l'opposé du diable, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne note pas son ressenti, mais il dit la vérité qu'il a entendue. Et ce qu'il a entendu, c'est ce que Jésus a aussi entendu, et c'est cette parole qui nous a été révélée, et c'est ce que nous avons aussi entendu, nous, à notre tour. Et j'irai même plus loin, nous tous, en formant l'Église du Dieu vivant, nous participons à notre tour aussi au témoignage de cette vérité. 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église est le colonne et le soutien de la vérité. Donc à notre tour de ne pas parler de notre propre fond, mais comme nos modèles qui nous conduisent maintenant de parler de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi l'œuvre simultanée de notre Seigneur, de l'Esprit, l'Esprit de vérité et de l'Église, nous tous, on n'est pas tout seul, et donc d'amener vers cette connaissance de la vérité toute l'humanité. Bien sûr, nous devons être convaincus que la vérité relative n'est pas la vérité. Allons-nous rechigner ? Allons-nous affirmer que la vérité absolue ne nous est pas accessible ? Pourtant, la grâce et cette vérité-là sont venues par Jésus-Christ, on l'a lu. C'est les paroles mêmes de Jésus. Alors, on prendrait volontiers la grâce et on laisserait la vérité de côté ? Non, surtout pas. Les deux sont indissociables. Nous nous priverions de consolation puissante. Laissons vraiment le Saint-Esprit élever notre âme. Et ce matin, dans la louange, on a été aussi encouragés à nous laisser élever. Par nous, on n'y arrivera pas, mais laissons-nous élever notre âme. Pour qu'elle reçoive vraiment désormais toutes ces promesses de la parole de Dieu comme étant vraiment cette vérité absolue. Voilà, j'ai terminé, mais avant, je vous tenais encore à vous laisser un dernier verset de Jean. C'est le dernier verset de la première épître qu'il a écrite, parce qu'il a beaucoup écrit sur la vérité, à la fois dans son évangile et dans l'épître. Jean 1, verset 5, de 19 à 21. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Oui, on le sait, ça. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Quelle que soit notre situation, on n'est pas démunis. On n'est pas tout seul. Nous sommes équipés tous du moment qu'on a accepté Christ, que le Saint-Esprit a en nous. On est équipé d'une intelligence qui est renouvelée pour connaître la vérité. Grâce au véritable Jésus-Christ, on apprend à prendre, on a à apprendre à prendre au sérieux cette parole qui est la vérité. Et toutes ces promesses, elles ne sont pas pour mon voisin, elles sont pour moi. Alors je vous laisse ces paroles juste. On avait évoqué aussi ces géants, des fois, qui nous assaillent et qui doivent être abattus, mais des fois, ces forteresses que nos propres analyses des choses, on s'est construit, mais voilà, juste quelques temps de cœur à cœur avec le Seigneur, que vous voyez ces éléments, et dans le silence, remettez-vous à lui et demandez vraiment que sa vérité, dans les situations dans lesquelles vous êtes, vous... soit transformé et que votre intelligence soit renouvelée. Ouais, notre Père, merci parce que tu veux prendre soin de nous et on est témoin de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, où tu ne veux pas que nous en restions au même point. Tu ne veux surtout pas que nous fassions marche arrière, mais que nous avancions de progrès en progrès. Et c'est ce que fait le Seigneur, c'est ce que fait le Saint-Esprit dans chacun de nous pour nous faire entrevoir ton point de vue, notre Dieu. Ce point de vue qui est sur les hauteurs et pas ce point de vue qui est dans le trou seulement de notre serrure. Par le trou de notre serrure, Seigneur. Nous voulons apprendre, c'est vrai, à nous laisser renouveler notre intelligence. Nous voulons apprendre à rentrer dans ce repos que tu as prévu, dans ces situations des fois de combat, de difficultés, de soucis, de peines. Nous voulons apprendre à percevoir ton plan dans ces situations, Seigneur, et apprendre même à te louer pour tout ce que cette vie que tu nous fais vivre, tout simplement parce que tu veux que nous soyons simplement attachés à toi. Voilà, nous voulons nous confier en toi pour cette semaine, pour demain, pour les mois suivants, mais parce que tu veux encore nous faire la grâce de nouvelles révélations sur nos vies, révélations sur ta parole. Et merci parce que tu veux nous faire du bien et c'est ce que tu fais à chaque jour, à chaque instant dans ton Église. Et on veut te prier, Seigneur, aussi pour tout ce monde, c'est vrai, qui est loin de la vérité, qui est même désabusé et qui ne la cherche plus parce qu'elle n'est qu'un mythe. Seigneur, nous voulons que ta puissance, que ta vérité soit connue, manifestée dans ce monde. Et aide-nous à être ces vecteurs, à être ces porteurs de ce message. Et que nous soyons à la fois pleins de grâce, mais aussi de vérité, Seigneur, pour parler, pour enseigner. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Merci à ceux qui ont participé ce matin pour ce culte. C'était précieux de vivre ces moments ensemble. Et Louise, vraiment, que Dieu continue de te bénir dans ton ministère. Le programme de la semaine, cet après-midi, le conseiller à sa retraite. Alors voilà, merci de penser à nous aussi pour les sujets qu'on va aborder. Pour préparer l'avenir de l'Église. Mardi, c'est donc la soirée des cellules. La cellule de Gex se retrouve chez nous. La cellule de Prefsaint, en principe, chez Emmanuel. Chez vous, ok, merci. Donc chez Pierrick et Lydia. Et puis la cellule de Collonges, Farge, Perron. Chez Pierre et Déborah, ok, merci. Jeudi, la chorale, elle est marquée à 20h, mais ce n'est pas juste. Il y en a qui viendront avant, d'autres qui viendront après, alors voilà, que chacun soit là au bon moment. Samedi prochain, club d'enfants. C'est important de partager ces invitations. Il y a quelques petites invitations sur le petit meuble au fond de la salle. Prenez-les, faites-les circuler, faites-les connaître à vos voisins, vos amis, vos connaissances. Dimanche prochain, c'est un culte un petit peu spécial. C'est un culte avec échange de chair. Donc au niveau des différentes églises de la pastorale, il y a un tournus. Et dimanche prochain, c'est donc Daniel Haut qui nous apportera le message. Et puis moi, j'apporterai le message à Saint-Genis. Oui, alors Daniel Haut, c'est donc le pasteur de l'Église protestante unie, qui est donc à Ferney-Voltaire. Il avait donné le culte, sauf erreur, il y a 2 ans, à la pastorale, donc au culte en commun. On a un nouveau parcours baptême qui va commencer. Alors, si des gens sont intéressés par ce que représente le baptême, pour avoir des informations, savoir ce que c'est exactement... Le parcours baptême n'est pas un engagement, c'est surtout un processus d'information. Alors vous pouvez voir avec Jean-Paul, c'est lui qui organise cela. Alors c'est important d'y penser, parce qu'il y a déjà une personne qui s'est inscrite. Alors c'est important de ne pas la laisser toute seule, vous êtes d'accord, hein, qu'il y en ait plusieurs quand même. Je vais laisser la place à l'ALENA, que Pierre a salué tout à l'heure, donc qui est l'époux de Grâce, la fille de David Ratovou. Il va nous donner des nouvelles un petit peu sur là où ils en sont par rapport à leur ministère.
Bonjour. Et merci pour l'accueil. Quand j'ai quitté Madagascar, même quelques semaines avant, j'étais un peu frustré. Je vais partir seul, pas qu'une semaine, pas que 2 semaines, mais 2 mois, loin de ma famille. Aller dans des endroits où je ne connais même pas, voir des gens que je ne connais pas. Mais pendant les 2 semaines où j'étais ici, c'est là où j'ai vu vraiment comment le Seigneur nous a réunis. En 1 Corinthiens 12, 13, il dit que, en effet, que nous soyons juifs, grecs, malgaches, ou français, ou suisses, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu en un seul esprit. Et ça m'a beaucoup encouragé et réconforté que je ne suis pas seul ici, loin de ma famille. Donc, les nouvelles, je vais dire un peu quelque chose de papa, de David. Depuis janvier, il s'est remarié. Depuis janvier, il a pris un coup de jeûne. Ça l'a boosté, le mariage. Il s'est réengagé dans son ministère. Et là, il est loin de nous. Il habite à 600 km de nous, dans la Brousse, en vivant comme avant, comme il était jeune, en tant que missionnaire. Et ça nous encourage beaucoup. Nous, la famille, nous, on va bien. Là, on a amené les enfants à faire un voyage missionnaire. Et vous voyez que ça leur a plu. Ils sont tout contents. Maintenant, nous sommes en 2e année, spécialisation mission à l'IBG. Et pendant les 1 mois et demi qui me reste, je vais faire des voyages ici en Suisse, en France, pour faire des futurs lieux de stage où le Seigneur nous envoie. Merci à vous.
Alors, dans 2 semaines, on aura un culte particulier, un culte de réjouissance, un culte de baptême. Et donc, non seulement on vous invite évidemment à y participer, mais on vous invite aussi à ne pas venir les mains vides, mais à prendre de quoi partager, parce que le culte sera suivi d'un apéritif dînatoire. Et c'est important qu'on puisse continuer ce culte de réjouissance par un temps ensemble. Ce sont souvent des temps riches, des temps de partage, des temps d'échange. Alors voilà, que chacun puisse venir avec quelque chose à partager. Des nouvelles de ceux qui souffrent dans leur santé, continuons de penser à chacun. Des nouvelles peut-être plus précises d'Anne-Lise. La semaine passée, je vous disais qu'Anne-Lise passait un temps plus difficile, avec plusieurs soucis de santé qui s'accumulaient. La semaine qui vient de s'écouler était plus favorable pour Anne-Lise, elle va mieux. C'est encore difficile, mais elle va mieux, elle souffre moins. La greffe de peau artificielle qui était prévue pour la semaine passée, pour le coup, n'a pas été faite, mais elle se fera probablement en début de semaine, demain ou après-demain. Et pour le coup, comme elle va mieux, alors les visites sont d'autant plus appréciées parce qu'elle peut aussi plus partager, plus discuter, elle est plus disponible aussi. Donc si vous voulez aller la visiter, elle est toujours à l'hôpital cantonal à Genève. S'il n'y a rien d'autre. Oui. Oui.
On a eu dernièrement, tante Hélène donc, a été hospitalisée suite à un petit malaise où le vent de son lit est tombé.
Tu veux venir ici ?
Voilà, donc tante Hélène est tombée un peu en essayant de se lever de son lit, rien de très grave, mais tout continuant dans la journée, elle a quand même été hospitalisée pour faire des contrôles, donc à Saint-Julien, depuis mardi soir ou mercredi matin, et puis elle devrait rentrer, peut-être c'était prévu hier, mais du coup ça s'est pas fait, lundi, mardi, ils ont rien trouvé et de spécial, ils approfondissaient encore 2-3 choses hier, et voilà, donc elle va très certainement rentrer très prochainement, la question se pose un tout petit peu, avec, j'ai eu Gérald au téléphone, au niveau de sa maison qui n'est pas très adaptée, donc on ne sait pas trop comment les choses évolueront. Donc voilà, on peut penser à elle dans ces moments. Merci.
Oui. Et puis avant de repartir, vous avez certainement remarqué que dans l'entrée de la salle, il y a une table avec des CD de Louise et d'autres productions. Alors n'hésitez pas à acheter, à prendre, à voir avec Louise, de façon aussi à continuer ce qu'on a vécu ce matin, peut-être à la maison. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets dans Hébreux. Hébreux, dans le premier chapitre, les versets 10 à 12. « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Amen. Bon dimanche, bonne semaine.